De quelle couleur est la Seine? Quelle est la couleur de ce fleuve? Voilà une des questions que pose le groupe Échelle Inconnue. Voilà une question à laquelle la population de Rouen est invitée à répondre. Réponse prévue sur place cet été, mais avant, alors que ce travail s'élabore, nous recevons l'initiateur de cette tribu qui va devoir nous expliquer son travail qu'il définit avant tout contre les architectes, contre les urbanistes, contre les sociologues et dixit tous les faiseurs de ville. Réponse par l'auteur, c'est la vignette avec Stanny Cambotte.
Si elle est dans les verts, hein.
Ouais. Bah quand c'est la pleine mer ici, on voit.
Ah oui, la pleine mer, on voit bien.
Bah cher, c'est plutôt. Hein,
c'est plus rien.
Dans le sombre. Oh, ça, c'est des grandes marées à Tancarville, là, ton. Oh, un peu comme ça, peut-être.
Alors, qu'est-ce qu'on écoute, Stanny Cambotte?
Là, c'est les premiers entretiens qui ont été réalisés avec des mariniers autour de la couleur du fleuve. On a commencé à essayer de rencontrer, à prendre des rendez-vous avec les personnes qui nous semblaient importantes pour le fleuve, ou en tout cas ce qu'on essayait d'entendre du fleuve. C'était essentiellement des professionnels liés au fleuve, des gens qui y travaillaient, des gens qui le côtoyaient tous les jours, qui pouvaient avoir une représentation un peu différente des représentations très officielles que commencent à prendre les fleuves. Puisqu'aujourd'hui, on est dans une période de mutation autour des fleuves. Ça a été considéré jusqu'aux années 80 comme des prolongations d'usines, en particulier sur les rives de Rouen jusqu'au Havre, où c'est des zones industrielles quand même très denses. Donc c'est des fleuves qui n'étaient pas regardés, qui étaient vus généralement de couleur grise, point. Et ces fleuves sont en mutation, donc on essaie de revaloriser des fleuves dans les centres-villes. C'est pendant longtemps, on les a pas regardés, les aménageurs, les politiques se disent que finalement, il y a peut-être de l'argent à se faire, et que un fleuve, ça peut être intéressant dans une ville. Et donc, les deux grandes idées qui préside à ça, c'est d'une part loisirs aux chers loisirs, donc aménagement de promenades pour les couples du dimanche sur les bords de Seine, ou dans d'autres villes sur d'autres fleuves, et sinon la question immobilière, puisque une fenêtre sur un fleuve, ça vaut un peu plus cher maintenant qu'une fenêtre qui n'est pas sur un fleuve. Donc qu'est-ce qui se passe quand on écoute ceux qui ont vécu ou pâtissent de cette mutation, ou sont en train de disparaître en tout cas des cartes et des représentations officielles, et de quelle manière on arrive à générer les représentations manquantes, qui est une grande partie de notre travail autour de ce fleuve.
Alors collectif, groupe, tribu, échelle inconnue, alors que vous ont-ils fait ces architectes?
Ils m'ont rien fait, j'imagine juste qu'ils pourraient de temps en temps travailler autrement s'ils étaient un peu moins obsédés par le petit commerce des murs, un peu plus réfléchis autour des documents même sur lesquels il travaille. Le travail se fait contre les faiseurs de ville. Il y a même un programme, ce travail, qui existe depuis pas mal de temps, qui est une phrase d'un poète qu'on a repris, qui dit qu'il faut combattre avec la ville que l'on voudrait et qui ne figure pas au cadastre, la ville qui y figure, de là peut-être l'avènement des mots géants. Donc voilà, c'est moins contre les architectes que même contre la ville du cadastre qu'on essaie de se battre, c'est-à-dire contre des pauvres représentations géométriques de nos espaces de vie et qui sont pourtant générateurs de projets, puisque quand on est architecte, il y a un document sur lequel on passe, quoi qu'il arrive, qui est le document de cadastre et sur lequel on va poser son projet à un moment donné. Il y a assez peu d'architectes qui ont conscience que le plan de cadastre, c'est juste une représentation de l'impôt créé par Napoléon. Voilà. Mmh. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on dessine comme ville, si ce n'est la ville de l'impôt, quand on continue à travailler sur ce type de représentation? Donc notre travail au départ, dès le début, en 98, ça a été essayer de générer d'autres représentations qui soient susceptibles de frotter, se confronter, ou essayer, au contraire, c'est quasi le programme de guerre civile, de détruire justement ces représentations très officielles et pauvrement géométriques.
Alors comment est-ce qu'elle s'organise, cette guérilla?
On essaie de travailler non seulement sur les invisibles de la ville, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas de la ville dans ses représentations, alors pas uniquement les vides des plans qui sont maintenant très à la mode. On essaie de visiter tous les endroits où il n'y a pas de petits traits, même si c'est très intéressant, mais surtout on essaie de travailler avec les invisibles de la ville, ceux qui n'ont pas voix au chapitre sur la ville, qui évidemment échappent complètement à ses représentations. On a commencé à travailler avec des sans-abri qui évidemment sont pas représentés sur une représentation de l'impôt qu'est le cadastre, avec des populations dites gens du voyage ou zigan, qui eux aussi semblent être ne pas être présentes sur ces représentations très officielles. Grosso modo, avec toutes les personnes, il nous semble que les espaces de crise dans la ville, ou les gens qui sont en crise dans la ville, sont des espaces et des gens qui sont susceptibles d'éclairer ce qu'est véritablement la ville.
Stanny Cambotte, merci beaucoup. Votre projet intitulé Dérive du groupe Échelle Inconnue sera présenté cet été à Rouen. Il risque de durer, mais en tout cas cet été, ce sera du 3 juillet au 29 août dans le cadre de la manifestation Rouen impressionné. C'était la vignette de la vigne, Franck Lilin, Sylvia Favre. Vous écoutez France Culture, tout de suite, le feuilleton.
Cette semaine, Sous les images, une série de textes de Jean-Christophe Bailly proposés par Jean Torrent. Jean-Christophe Bailly est né en 1949 à Paris. Depuis son premier livre, publié en 1967, il a beaucoup écrit, en croisant les genres et en couvrant de nombreux domaines qu'il s'efforce de faire jouer entre eux. Cette saison voit la réédition de son ouvrage « Description d'Olonne » chez Christian Bourgois et une exposition à la Bibliothèque nationale de France consacrée à Gilles Layot rappelle que Jean-Christophe Bailly a accompagné le travail du peintre. La fiction sur France Culture a choisi de faire entendre son œuvre à travers une série de 4 émissions qui traversent les thèmes qui lui sont chers. Cette semaine est consacrée aux images, non pas une histoire de l'art déroulée dans sa linéarité, mais une série de rapports subjectifs à telle ou telle image choisie par l'écrivain. De la peinture rupestre à Giacometti, en passant par l'architecture et la photographie. Aujourd'hui, 3e jour, l'image photographique. Jean Torrent. Réalisation Étienne Vallès. 3e émission. L'image photographique.
La meule de foin de William Henry Fox Talbot.
Cette photo donc, puisqu'ici tout commence avec elle. Figure numéro 1. Pour ceux qui ont un peu arpenté l'histoire des origines de la photographie, elle est connue. Il s'agit de la planche 10 du Pencil of Nature de William Henry Fox Talbot, The Haystack, la meule de foin. Et donc, d'un calotype, tirage positif sur papier, de 16 par 25 cm, dont Talbot fut l'inventeur et le promoteur, et qu'il publia en 1844 dans ce qui aura été le premier livre de photographie au monde, et donc aussi d'un incunable. Sans doute est-ce à ce titre qu'elle figurait sous forme de carte postale au comptoir du musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône, où je l'achetais en août 2005.
Soit une image qui n'a pour ainsi dire pas de fond. Le cadre privilégie la meule, qui semble immense, qui déborde même le cadre par le haut. On devine des arbres derrière elle. Très exactement le jeu d'ombre et de lumière des frondaisons. Un des avantages de l'art photographique, indique Talbot dans le commentaire de cette planche, sera de nous permettre d'introduire dans nos images une multitude de détails infimes qu'aucun artiste n'aurait pris la peine de copier d'après nature avec ce degré de minutie, alors qu'ils ajoutent vérité et réalisme à la représentation.
Avec la meule de foin, que ce soit voulu ou non, et peut-être est-il fondamental que cela n'ait pas été à proprement parler et pleinement voulu, il y a et comme définitivement éruption. De la chose, d'une part, l'objet montré comme tel, présent dans son pur écart, suspendu dans sa pesanteur, et du photographique, d'autre part, une image qui ne rend plus de compte à la peinture, qui fait le travail de représentation tout autrement. La photographie dit qu'il y a du réel. Elle n'en certifie pas l'existence, elle la prolonge, comme une ombre détachée. Il y a par conséquent une sorte d'ombre qui se souvient de ce qui devant elle était présent. La photographie présente sans fin le présent qui fut. Sa présence à elle n'est rien d'autre que cette